peux vous dire que ce qui vous attend, c'est, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que, en fait, vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat! Et pas le capital.
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, bonsoir, c'est Le Régor, chaque semaine sur les Coligarigues à Montpellier, Canal Sud à Toulouse. Et bien évidemment, Radio Primitive sur Reims, où cette émission est réalisée. Les Grégor, une parole anarchiste communiste.
Info. Le samedi 30 mai, nous avons rencontré les camarades de Spazio Popolare Neruda à Turin, de Turin, et du collectif Prendo Casa Torino alla Cunda. Nous étions curieux de connaître une des dernières expériences de centre social encore en activité en Italie. L'expulsion par le gouvernement Meloni en janvier dernier du centre social historique Ascatasuna avait mobilisé 50 000 manifestants. Mais sonnait la fin de ces expériences d'autonomie et d'auto-organisation vieilles de plusieurs décennies.
Torino, 31 gennaio. È il giorno della manifestazione di Ascatasuna, organizzata dopo lo sgombero del dicembre scorso.
E allora facciamoci sentire! Cosa vogliamo? Ascatasuna! Vuol dire libertà!
Dai Notav ai collettivi, fino alle sigle politiche ai pro-Palestina. Un unico scopo, rivendicare lo spazio sociale al grido minaccioso del avreste dovuto pensarci prima.
Donc là on est à la Cunda et j'avais envie rapidement de faire une petite présentation de cet espace parce que c'est vraiment un lieu très particulier dans la région parisienne où il y a à la fois un lieu d'habitation où il y a beaucoup de gens qui y habitent et en même temps un lieu d'activité puisque là on va participer à la présentation de ce qui s'est passé à Turin dernièrement. Voilà, tu peux me présenter la Cunda ?
Oui. Et ben la Cunda, c'est un squat qui a ouvert en 2020, en mars 2020, juste avant le premier confinement. Et c'est un lieu d'habitation et d'activité, donc c'est aussi un centre social autogéré où il y a à peu près 80 habitants et habitantes. Ça a beaucoup changé. Au début, il y avait moins de gens et maintenant, avec toutes les expulsions de squat et le fait que la crise du logement elle est de plus en plus vénère, il y a de plus en plus de monde et de besoins. Et après, il y a plein d'activités, surtout des cours de sport presque tous les jours, donc tout est gratuit ou à prix libre. Il y a un marché solidaire tous les dimanches où on redistribue des fruits et légumes qu'on va chercher à Rungis. Il y a un atelier couture, un atelier de réparation de vélo, une cuisine pro pour faire des cantines, un garage autogéré, une salle de ciné et de concert, plein d'espaces pour faire des réunions et s'organiser, un potager, enfin bon, il y a plein de trucs quoi.
Merci déjà à la Cunda de nous avoir accueillis et merci aux camarades Turin d'être venus. La plupart de nous vont parler italien, mais il y a quelqu'un qui va parler français, il y aura la traduction quand même. Comme vous savez, on est là pour parler de le Spazio Popolare Neruda. C'est un espace qui a été occupé il y a 10 ans par le collectif Prendo Casa et qu'aujourd'hui, il reste encore un espace occupé dans la ville de Turin. Juste pour se présenter, on est moi, j'étais un membre de l'Espace Popolare Neruda et du collectif Prendo Casa. Après, je suis parti de l'Italie. Et eux, c'est des gens de Neruda et des camarades de Paris, Saint-Denis, qui nous aident avec la traduction. Et voilà, l'idée, c'était un peu dans un moment où en Italie, avec le gouvernement Meloni, il y a une attaque directe à toutes les expériences un peu autonomes et autogestionnaires, de faire un moment de rencontre un peu pour créer des liens de solidarité, se présenter, partager des expériences de lutte. Et du coup, je demanderais de commencer par une petite histoire de l'espace, beaucoup de ces 10 ans d'occupation et de du collectif Prendo Casa, qui c'est un collectif qui est très lié à l'histoire du Neruda.
Salut, moi je suis Viola et je vais parler un peu en français et un peu en italien. Donc si vous ne comprenez pas, on va faire la traduction directement. Alors, le Neruda a été occupé dans les 2015. Mais pour comprendre bien tout, on va faire une petite histoire de la situation en Italie. Donc, dans les 2011, il était en grève crise économique qui a porté une importante lutte pour des logements. Donc, la crise a porté personne a été expulsé et mis dans la rue. Et ça a apporté une importante manifestation et une importante occupation dans toute l'Italie, occupation grande et petite. Et il était un important manif à Rome dans les 2015. Et il était aussi un contre-attaque important dans l'État italien qui a rendu impossible de vivre dans une occupation. Avant les 2015, il était possible d'avoir la résidence en Italie dans l'occupation. Mais après cette loi qui s'appelle Renzo Lupi, c'est impossible d'avoir la résidence dans une occupation. En particulier en Turin, la situation était vraiment grave. Il y avait beaucoup de personnes qui sont mises dans la rue. Et donc, avec un collectif politique qui s'appelle Prendo Casa, il y avait beaucoup de personnes qui sont rencontrées dans cette rue et ils ont occupé un premier logement. Il était en école, mais il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas d'électricité. Donc, nous sommes été expulsés vraiment vite, un mois. Mais après, la lutte continuait et donc nous avons occupé un autre logement dans un autre quartier qui s'appelle Valdocco. Valdocco, c'est un quartier qui ce n'est pas les banlieues, ce n'est pas le centre aussi, donc c'est en position un peu particulière. Il y avait un petit bourgeoisie. Et il y avait beaucoup de boutiques, elles sont petites. C'est un quartier tranquille, on va dire, en Turin. L'école, c'est très grande. Aujourd'hui, les personnes qui habitent sont vont. Et ils viennent de Ghana, Niger, Maroc et...
Italie,
ouais, c'est ça. Maintenant, on va parler un peu des activités qu'ils ont faites là-bas. Et...
Peut-être, je ne sais pas si tu as envie de parler de Prendo Casa, en fait, tout après.
Ouais, c'est ça. Prendo Casa, c'est un collectif politique. Et il est né dans les 2011, je pense. Ouais. Donc, avec la crise économique et tout. Et la différence grande, je crois... dans cette occupation et que les soutiens de Prendo Casa étaient trop vraiment importantes pour les personnes qui habitent là-bas.
Même le fait que l'histoire de Prendo Casa, c'est un collectif qui est lié à Scatasuna. Du coup, ça vient de la même courant politique. Et en 2011, du coup, c'est des gens qui faisaient partie d'Ascatasuna qui ont créé un collectif qui s'appelle Prendo Casa, mais qui est dans le même réseau, du coup. Qui ont occupé avec les centaines de gens qui n'avaient pas de logement ces bâtiments. Du coup, un peu l'histoire du Neruda au début, c'était quand même hyper connecté à l'histoire de Ascatasuna. Voilà, parce que c'est les mêmes gens, c'est les mêmes réseaux politiques. Et au bout de ces 10 ans d'occupation, quand même, si on reste du même réseau, etc., etc., et chaque collectif a quand même gardé son autonomie. Du coup, une fois que les bâtiments ont été occupés, les Neruda ont pris des décisions pour les Neruda et Ascatasuna a pris des décisions pour Ascatasuna. Du coup, juste savions quand même, je pense que c'est important au niveau historique, savions quand même d'où millions de militants de Ascatasuna et des gens qui, avant les Neruda, faisaient Ascatasuna.
Oui, au début aussi, les personnes qui habitent dans les Neruda ne font pas aussi de Prendo Casa.
Du coup, c'est un bâtiment qui a été occupé en 2015. Et les premières années, ça on a fait un peu plutôt des travaux, de la mise en sécurité de l'espace. Et petit à petit, on a commencé à essayer d'organiser des activités, des événements à l'intérieur. Les manières s'organiser, du coup, se sont structurées au fil des années. Et je pense que c'est très intéressant de parler de comment ça structure la vie interne du centre social à Neruda. Et c'est quoi les niveaux de décision, c'est quoi les âgés qu'il y a à l'intérieur, comment les gens qui traversent l'espace s'organisent à l'intérieur de cet endroit. Que, si ça fait 10 ans qu'ils résistent, c'est même parce que je pense qu'on a été capable de construire quand même des rapports de force, à la fois dans la manière de s'organiser internement, et après on verra même dans la manière de s'ouvrir au quartier et créer des liens dans les quartiers. Comment les Neruda s'organisent à l'intérieur, c'est quoi les différents âgés, les différents niveaux de prise de décision.
Neruda si divide in due principali assemblee, che c'è quella del settimanale.
Le Neruda il s'organise surtout autour de deux assemblées hebdomadaires, une des habitants et une qui concerne plutôt les activités qui sont organisées dans le lieu. Et en plus de ça, il faut compter que d'autres activités s'organisent, enfin, d'elles-mêmes et donc ont leur propre moment d'organisation.
Queste attività non sono concepite come un'offerta come quella che fa lo Stato, ma invece rispondono a un...
Donc, ces activités qui sont organisées au Neruda ne sont pas conçues comme une offre, enfin vraiment d'activité, mais s'organisent plutôt autour d'un concept qui définissent comme le mutualisme, un mutualisme conflictuel, une entraide conflictuelle. Et donc, à partir de l'année dernière, l'assemblée qui gérait les activités a été un peu revue pour tenter de mettre en place, enfin de réfléchir autour de cette notion dans l'organisation des activités.
Ad attraversare lo spazio ci sono gli abitanti, i militanti, anche che lo abitano e altre e anche le persone del quartiere.
Donc le Neruda il est traversé par des populations différentes, donc forcément les habitants de l'espace, des militants, mais aussi les habitants du quartier et beaucoup par exemple d'étudiants de Turin, donc juste pour dire qu'il y a plein de mondes différents, de couches différentes de la société qui s'y rencontrent.
Il dopo scuola, che è nato come un dopo scuola ristretto ai bambini del.
Donc le premier c'est le dopo scuola, donc l'après école qui est de l'aide aux devoirs, mais pas uniquement, enfin des activités organisées qui est, c'est d'abord né uniquement pour les enfants qui habitaient au Neruda et qui était organisé en même temps que l'assemblée des habitants pour aussi permettre justement aux familles, aux parents de ces enfants de pouvoir participer aux assemblées. Et,
voilà. Dopo un po' di tempo abbiamo stretto legami con informali con le scuole e ci hanno chiamati anche per
Donc à partir de là, ils ont commencé à tisser des liens informels avec les écoles du quartier. Et ils ont pu donc organiser des activités extrascolaires avec certains des profs. Et puis à partir de là aussi des ateliers sur l'organisation autour du 25 avril, qui est la journée de libération d'Italie, enfin la fête de commémoration de la libération de l'Italie du fascisme. Et à partir de ces premiers liens qui s'étaient créés, le dopo scuola du Neruda s'est petit à petit ouvert de façon plus large au quartier autour.
Quell'anno scorso abbiamo provato e stiamo continuando a fare delle assemblee con i bambini per rendere lo spazio il più orizzontale possibile.
Et donc, là, ils essayent aussi de réfléchir à comment organiser ces activités avec les enfants de la manière la plus horizontale possible. Et aussi, ils ont mis en place des centres d'été, parce que les prix des centres d'été à Turin sont fous et que donc ils voulaient trouver une alternative à ça.
Poi abbiamo anche una scuola d'italiano che invece risponde a un bisogno da parte delle solitamente persone migranti arrivate da poco in Italia.
Il y a aussi donc des cours d'italien qui sont organisés qui sont surtout pour des personnes qui sont arrivées en Italie depuis peu et qui ont besoin de ces outils linguistiques de communication pour faire valoir leurs droits et réussir à lutter contre le racisme qu'elles subissent en Italie.
Et le méthode pédagogique est toujours celui le plus horizontal possible, donc on ne part pas avec des informations qui se veulent donner, mais on part
de... Là, de nouveau, les méthodes de transmission se veulent le plus horizontal possible, donc ça ne part pas d'informations qui sont données du haut, mais plutôt des demandes qui sont exprimées par les personnes suivent le cours. Et même si c'est... Donc, les cours d'italien sont un peu un service... service de base, ça se lie aussi à toutes les autres réalités problématiques qu'il y a au sein du Neruda, donc que ce soit le dopo scuola, mais aussi leur permanence juridique.
Nel 2018 è nata anche la Palestra Popolare del Neruda, che è uno spazio che è stato creato per...
Il y a aussi une salle de sport autogérée qui est un lieu ouvert à tous et qui donc offre différentes activités.
Appunto tanti corsi, tutti gratuiti, come acro yoga, Brazilian Jiu-Jitsu, capoeira, box. E la palestra cerca molto di comunicare con il quartiere, ad esempio con allenamenti condivisi per strada.
E tu disais, enfin, la salle de sport autogérée s'est ouverte le plus possible sur le quartier en organisant par exemple des entraînements communs dans la rue. Et puis tous les six mois, cet événement, ce gala de boxe qui s'appelle les Botte della Madonna, que je ne m'aviserai pas à traduire parce que j'ai aucune idée de comment faire ça. Oui, enfin les coups de la Madone, mais bon, il y a un sous-texte.
Genre des claques de bâtard.
E poi abbiamo anche la rassegna teatrale, il teatro popolare, che anche qui è nato come per creare un teatro accessibile a sia spettatori di...
Donc il y a un théâtre populaire qui se veut donc toujours ouvert à tous et permet de faire de la culture plus accessible, tant pour les personnes qui viennent le voir que pour les artistes qui sont logés une semaine en amont au Neruda pour répéter.
Ah sì, ci sono anche molte altre realtà che frequentano, che fanno assemblea o attività nello spazio, come...
Okay. Et donc il y a aussi plein d'autres réalités qui existent au sein du Neruda, comme la permanence juridique, un groupe de chansons populaires, une chorale transféministe et un cours d'arabe.
E lo sportello popolare è nato a seguito di una formazione da parte di un'avvocata all'interno della scuola di italiano, perché è emersa la necessità da parte dei...
Donc la permanence juridique, elle est née de demandes qui étaient apparues au cours des cours d'italien et avec l'idée donc de donner aux personnes qui ont besoin les outils pour réussir à obtenir leur papier, un titre de séjour, et surtout en prenant en considération le fait que toutes les procédures et tous les papiers à remplir sont tous écrits de façon à être le plus difficile possible à comprendre parce que l'État ne veut pas donner de papiers à ces gens.
Dunque, adesso in questo momento, come ho già detto, al Neruda ci abitano più o meno 120 persone, tra le quali sono famiglie con bambini.
Donc, comme on disait, il y a plusieurs réunions qui ont lieu. Il y a 120 personnes environ qui vivent au Neruda maintenant. Il y a donc tous les vendredis une assemblée des habitants. Et à côté de ça, pour les questions plus logistiques, chaque étage du bâtiment s'organise de façon autonome pour les gérer.
L'assemblea dell'abitativo è nato assieme a quella della lotta per la casa, con Prendo Casa.
Cette assemblée des habitants, elle est née en parallèle des assemblées sur les luttes pour le logement et avec le collectif Prendo Casa. Et donc sur les deux premières années de l'occupation, les discussions tournaient autour beaucoup de l'organisation d'une vie collective, enfin de la vie collective dans cet espace. Et avec beaucoup de questions logistiques et quand même beaucoup de tensions internes qui ont fait que pendant longtemps les assemblées se sont quand même terminées de façon assez tendue.
Dal 2017 invece la necessità di strutturare un po' di più l'assemblea anche a livello più politico si è fatta sentire e quindi si è iniziato a interrogarsi sul posizionamento delle diverse...
E a partire de 2017 si fait sentir la necessità di rendere... d'introduire plus de réflexion politique au sein de cette assemblée en parlant des dynamiques internes, donc que ce soit des positions des différents habitants, des rapports de force entre habitants et militants, mais aussi entre habitants de nationalités différentes, et donc de faire exister la question de la violence comme point de discussion, et à partir de là, la question de l'antiracisme est devenue centrale dans la plupart des discussions et des assemblées.
A partire da letture di Angela Davis e poi riflessioni che sono venute da queste, abbiamo cominciato a tematizzare la violenza di genere.
E donc, a partire de lecture, entre autres d'Angela Davis, on a commencé à discuter de la question des violences de genre. Et à partir de, surtout au sein du Neruda d'abord, et à partir de là a été créée l'Assemblée des femmes qui se tenait dans une salle à part. Et à partir de cette rassemblée et des discussions qui s'y sont tenues, il y a plusieurs mobilisations qui se sont lancées, notamment sur la question des violences, enfin de la violence des services sociaux.
E dal 2020 le dinamiche all'interno dell'assemblea sono un po' cambiate a causa del Covid, infatti un po' di persone hanno abbandonato l'abitativo e questo ha cambiato la composizione dell'assemblea e i ragionamenti al suo interno.
En 2020, à partir du Covid, les dynamiques au sein de l'Assemblée et du Neruda ont un peu changé parce qu'il y a des personnes qui sont parties. Et donc progressivement, les activités vers l'extérieur, on peut donner par exemple les soutiens à d'autres luttes, par exemple des piquets contre des expulsions, ont diminué petit à petit et les discussions, les préoccupations se sont plutôt concentrées sur comment améliorer la qualité de vie à l'intérieur du Neruda.
Et on est avec les camarades de Spazio Popolare Neruda, donc un centre social de Turin, et le collectif Prendo Casa de Turin, toujours, et on était à la Cunda.
Approfondir un petit peu ce que tu as dit au début sur les activités, parce que je pense que c'est très intéressant. Je n'ai pas trop bien compris dans quel sens les activités que les gens qui traversent le Neruda mettent en place. Ce ne sont pas des activités comme des services qui sont proposés aux gens. Du coup, c'est quoi le sens politique qu'il y a derrière ces activités, le raisonnement politique qu'il y a derrière. Je sais que parmi les gens qui sont venus aussi, il y a beaucoup de monde qui fait la garderie. Et dans l'aide au devoir, et que moi aussi j'avais fait il y a quelques années. Et du coup, je pense que c'est intéressant d'expliquer les réflexions qu'il y a derrière et le fait que faire des aides au devoir, faire des permanences, ce n'est pas donner un service aux gens, mais il y a une réflexion politique derrière et il y a même des tentatives de laboratoire politique avec les enfants aussi, en tenant compte que c'est des enfants, du coup. Mais du coup, je pense que c'est intéressant quand même en quoi faire une garderie dans un espace occupé, autogéré, c'est différent que faire une garderie que l'État peut donner comme service, quoi.
Beh, innanzitutto, fare il dopo scuola all'interno di uno spazio occupato permette di renderlo il più accessibile possibile, quindi gratuito, senza fare richiesta di documenti. Ou accessible à toutes les personnes du quartier.
Donc, la première chose, c'est peut-être simple, même de base, du fait que d'organiser une garderie, aide aux devoirs, activité périscolaire au Neruda, ça fait qu'elles sont. Ça les rend plus accessibles, gratuites, qu'il ne faut pas donner de documents d'identité pour pouvoir y participer, que c'est ouvert sur le quartier. Mais en plus de ça, ça ne se veut pas un remplacement des services de l'État qui ne fonctionneraient pas, mais plutôt de proposer une vraie alternative avec un espace et d'émancipation et de réflexion critique sur le monde, et en particulier dans le cas des activités périscolaires, la question du refus d'une forme d'éducation verticale avec une figure du professeur et puis des étudiants. Et donc ça s'est mis en place aussi à travers justement cette assemblée des enfants.
Quand j'étais moi au Neruda il y a quelques années, par exemple, on avait fait une activité, vous vous rappelez aussi, on avait fait une activité pour le 25 avril, qui c'est la journée de libération du fascisme en Italie. Et l'idée, c'était de créer autour de certaines dates ou de certains arguments des discussions avec les enfants, qu'on appelle les âgés, mais ce n'est pas des âgés. Comment traduire, mais c'est quand même des moments où, par exemple, le laboratoire du 25 avril, il y a 4-5 ans, on avait donné un foulard qui est un peu le symbole de la libération en Italie, et on avait demandé aux enfants d'écrire sur les foulards ce que pour eux ça voulait dire liberté. Et après, on avait essayé de thématiser avec eux les concepts d'antifascisme en tenant compte qu'on parle avec des enfants, et des enfants qui peut-être ils n'ont pas des origines européennes pour lesquelles, du coup, le fascisme en Italie, c'est pas forcément un truc. Central, quoi. C'est pas un âgé, quoi, c'est des enfants. Du coup, il y a des jeux, il y a des activités. Mais l'idée, c'est quand même d'essayer de réfléchir quand même à des thématiques qui peuvent. Surtout parce qu'en vrai, les enfants, ils ont différents âges. Genre, il y a des petits, mais il y a quand même des gens de 14-15 ans, quoi. Ou même les types de discours que tu peux faire. Il y a des gens qui ont grandi au Neruda, qui ça fait 10 ans qu'ils habitent là-bas, qui sont nés là-bas, tu as la possibilité quand même d'écrire un certain type de discours en tenant compte qu'il s'agit quand même des enfants. Quoi.
Abbiamo fatto delle vere e proprie assemblee tra di loro, sì. Sì, anche un po' per diffondere delle pratiche, quindi tutti in cerchio e passandoci la parola.
E là, ils ont aussi fait des vraies et propres assemblées entre les enfants, où ils étaient assis en cercle et ils se passaient la parole, d'une part pour faire une certaine transmission de pratiques, mais aussi parce que les enfants étaient même curieux de ces moments d'assemblée.
Moi, je voulais poser une question. Tu as dit qu'avec le Covid, ça a changé. Et je pense qu'il y a un autre truc qui a grave changé la vie militante à Touraine. Pas que pour le Neruda, mais pour différents espaces. C'était un gros procès qui a eu lieu au tribunal de Touraine ces années, qui a touché différents espaces, parmi lesquels le Neruda.
Sì, questo processo si chiama processo sovrano e in realtà è iniziato nel 2022.
Du coup, c'est un procès qui a commencé en 2022 qui s'appelle Procès Souverain, qui visait trois espaces en particulier, enfin trois mouvements, Neruda, Askatasuna qui est un centre social occupé depuis 93 et qui a été expulsé récemment. Et le mouvement contre la ligne TGV, Notav Lyon-Turin. Et l'accusation principale, c'était association de malfaiteurs.
Et alors, les personnes imputées sont 28, di cui 16 appunto per associazione a delinquere. E gli anni che cadono sulle spalle di queste persone sono in totale 88.
Donc il y a 28 inculpés, dont 16 pour association de malfaiteurs, et qui encourent 88 ans de prison en total. Et actuellement, il y a principalement des mesures
préventives.
Des mesures préventives, comme des arrestations domiciliaires pour une partie de ces personnes. Mais la première instance a eu lieu l'année dernière, en mars 2025. L'association de malfaiteurs est tombée.
Abandonnée.
E quindi sì, cioè, l'associazione delinquere è caduta, però la questione è che la propaganda dello Stato e del governo Meloni in particolare
l'accusation d'association de malfaiteurs est tombée, mais pendant ces deux ans d'investigation, il y a eu une propagande très forte de la part du gouvernement Meloni contre le Neruda. Entre autres, par exemple, à l'instant des accusations de faire payer l'argent de la protection aux personnes qui habitaient le lieu. C'est une pratique mafieuse. Et par exemple, il y a des journalistes qui rentraient dans le Neruda et qui insistaient auprès des gens pour leur demander « Est-ce que tu payes de l'argent pour habiter ici ?» etc. Donc ça a été deux années assez lourdes.
C'est intéressant que le chef d'accusation de l'association Malfaitor, c'est un chef d'accusation qui est né dans le code constitutionnel italien pour combattre la mafia. Donc à la base, c'est un code qui est appliqué pour les associations mafieuses. Et l'accusation qu'on est roudain, le pizzo, c'est en gros, la mafia va frapper à la porte des magasins. Il dit, soit vous nous donnez l'argent, soit on vous brûle les magasins. Et le pizzo, c'est l'argent que la mafia demande aux magasins pour ne pas être brûlé. Genre, en gros, la mafia dit, nous, on vous protège, mais si vous acceptez pas, on vous brûle. Et l'État a accusé les Neruda de faire les mêmes pratiques. Du coup, il a accusé les Neruda, Askatasun et le mouvement Notav d'être une association de malfaiteurs. Et c'était une des premières fois que cette chef d'accusation venait utiliser pas pour la mafia, mais pour des luttes. Et en plus, ils accusaient justement d'utiliser les mêmes pratiques, c'est-à-dire d'aller menacer les gens pour faire payer le loyer à l'intérieur de l'espace.
Esatto, quindi per questo anche contesto italiano, cioè l'associazione delinquere ovviamente portava delle pene maggiori a queste 16 persone che venivano imputate, perché...
Donc oui, ça a été deux années très dures d'organisation pour répondre à ces accusations, parce que implicitement, l'accusation politique, c'est qu'il n'y a pas d'organisation par le bas, mais il y a des gens qui se profitent des autres pour faire de l'argent sur leur dos. Donc il y a eu même des conférences de presse qui ont été organisées au Neruda avec même les habitants qui disaient bah, « Nous, on n'a jamais payé de l'argent pour habiter ici. » Donc voilà, deux années d'organisation plutôt dure.
Però, per fortuna, il primo appello è andato bene.
Donc heureusement, le premier procès s'est bien passé, mais le procureur a fait appel. Et le 14 mai a commencé le procès en appel. Donc on espère que ça va bien se passer quand même.
Et aussi le fait de les mesures préventives en fait, même si l'association Malfaiteur est tombée, il y a un certain nombre de camarades qui ont payé à travers les mesures préventives, où en gros, l'État se permet de faire payer avant que la condamnation soit établie ou pas. Si, après, la condamnation est confirmée, si toi t'es coupable, les années de peine sont réduites de ta peine, celle qui t'a déjà payé en amont. Mais si t'es pas coupable, personne te redonne ces mois de liberté, personne te redonne. Du coup, il y a quand même beaucoup de gens qui payent avant d'être condamnés par les tribunaux.
E un altro aspetto interessante sicuramente per capire la repressione in Italia in connessione a questo processo è il fatto che...
Donc un aspect important à comprendre pour comprendre la répression en Italie, c'est que ce procès a eu lieu pendant l'écriture et la promulgation de décrets sécurité, qui sont des décrets que le gouvernement Meloni fait sortir à peu près un tous les six mois, et qui rendent la répression de plus en plus dure pour le mouvement social en Italie.
La cosa che fa pensare è che se il processo fosse andato bene per lo Stato, quindi se queste persone fossero state accusate.
Donc un truc qui fait réfléchir, c'est que si le procès s'était bien passé entre guillemets pour l'État et que l'accusation de association de malfaiteurs était validée, le premier décret sécurité aurait dû être publié le lendemain du verdict du procès. Et donc pour montrer à quel point l'État considère que ces personnes c'est des terroristes.
Quindi questo sicuramente è stato il primo attacco grande contro il movimento negli ultimi tornesi, ma in generale mi verrebbe da dire...
Donc ce procès a été, disons, l'attaque la plus importante, mais il y en a eu d'autres aussi en même temps contre le Neruda, et dans lequel le Neruda a payé le prix cher. Notamment, il y a eu un cas de tuberculose dans l'espace, et cette maladie a été instrumentalisée pour attaquer l'espace occupé.
Sì, la questione è che c'è stata appunto questa persona che è stata male, è stata portata in ospedale subito in realtà.
Donc il y a eu une personne qui a été malade de tuberculose et qui a été amenée à l'hôpital, mais suite à ça, l'ARS, dont le représentant est en lien avec des partis d'extrême droite de Turin, a commencé à dire que dans le Neruda il y avait 30 personnes malades et qu'il fallait absolument expulser l'espace pour résoudre la question de la tuberculose.
Et anche qua ovviamente in realtà il nostro lavoro ha dimostrato l'opposto, nel senso che
en réalité notre travail a montré l'opposé exact, parce que finalement la gestion de la maladie et de la réponse à la maladie est retombée tout entièrement sur les personnes qui fréquentaient l'espace du Neruda. Et on a dû nous-mêmes mettre en place des mesures pour limiter la contagion et s'assurer que tout le monde n'était pas malade.
E questa sicuramente è stata la risposta migliore che potevamo dare, perché in primis un sacco di attività, tra cui il dopo scuola con i bambini, sono state per un certo periodo non sono state fatte.
Par exemple, on a suspendu toutes les activités, y compris les activités périscolaires. Et on est nous-mêmes allés à l'hôpital ensemble avec tous les habitants pour se faire tester, ce qui a provoqué énormément de problèmes aussi, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'avaient pas la carte vitale ou n'avaient pas de médecin traitant. Donc c'est pas évident de se faire soigner, de se faire tester, quoi.
Quindi questo ha mostrato che il problema non è la malattia, ma il fatto che in realtà non c'è nessun tipo di risorsa per queste persone.
Donc ça montre bien que le problème en soi ce n'est pas la maladie, mais c'est le fait que ces personnes n'ont pas les ressources de répondre à un problème qui serait de gestion très simple pour des personnes qui ont des papiers, très, très banalement. Et l'État n'a donné aucun type de réponse face à ces problématiques-là pour l'espace Neruda.
E questa strumentalizzazione è andata avanti per mesi, in realtà anche dopo che tutte le persone sono state testate e chi era stato infettato, insomma.
Donc alors les attaques de la part des partis de droite ont continué pendant des mois, même après que tout le monde ait été testé et que les personnes qui avaient été infectées par la tuberculose étaient soignées et que tout le monde soit rentré sans problème. Les partis de droite continuent de dire qu'il y a un problème sanitaire en Neruda et que la solution c'est l'expulsion.
E per rientrare un po' nel discorso degli attacchi a quello che c'è stato nel movimento torinese.
Donc pour revenir à l'historique des attaques au mouvement social de Turin, juste après la question de la tuberculose, il y a eu l'expulsion de Ascatasuna, et qui a été un coup dur pour tout le mouvement de Turin parce que personne ne s'attendait à ce qu'un lieu aussi important dans l'histoire du mouvement social italien puisse être expulsé en une seule matinée.
Et... Questa questione sia della tubercolosi che lo sgombro della scatazione in realtà ha portato una militarizzazione importantissima.
Donc l'expulsion ne s'est pas arrêtée avec l'expulsion en soi, mais il y a eu aussi une militarisation importante de tout le quartier de la Scatasuna. Et il y a eu une quantité d'argent faramineuse qui est dépensée. Et encore aujourd'hui, six mois après l'expulsion qui a eu lieu le 18 décembre, il y a au moins trois paniers à salade, au moins trois camions de flics devant le bâtiment de Scatasuna tous les jours.
Et quindi, se avessero usato quei soldi per combattere la tubercolosi, sarebbe stato meglio, sicuramente.
Et donc, en conclusion, s'ils avaient utilisé cet argent pour répondre à l'épidémie de tuberculose, ça aurait été mieux.
je voulais juste ajouter que c'est. Ce qu'ils font à Scatasuna, que tu viens de dire, de laisser des camions de CRS devant, ils ont repris ce qu'ils font depuis 10 ans en Val de Souze, où il y a des millions d'euros chaque année qui sont dépensés juste pour que les flics puissent rester toute la nuit, tous les jours, devant soit le chantier d'Etave, devant soit à Scatasuna Turin. Il y a des millions d'euros chaque année qui sont dépensés pour ça, mais vraiment des millions d'euros. Parce qu'il faut payer les salaires de tous les flics, s'ils sont là-bas la nuit, c'est en plus des salaires extra. Vous savez, l'argent public dépensé comme ça.
Vous êtes toujours à l'écoute de l'actualité des luttes et on est avec les camarades de Spazio Popolare Neruda, donc un centre social de Turin et le collectif Prendo Casa de Turin, toujours, et on était à la Cunda.
Et je voulais juste demander, parce que je pense que la manière dont chaque fois on arrive quand même avec des difficultés à gérer les attaques, et sont nombreux les attaques, c'est parce que Neruda, mais même à Scatasuna, avant, c'est quand même avec beaucoup de différences, c'est quand même la capacité de construire dans les quartiers où ils sont situés des rapports de force, du coup de sortir des murs du centre social et de s'ouvrir au quartier, avoir des liens, et ça c'est vous avec l'expulsion d'Ascatasuna, la manif, il y avait 50 000 personnes, et même si les gens essaient de dire qu'il n'y avait que des extrémistes, des terroristes, bah, il y avait des gens hyper normaux à la manif. Et les Neruda, c'est pareil, c'est un quartier différent, mais je pense que la capacité à répondre, ça passe en premier lieu par la capacité de construire dans les quartiers des rapports de solidarité des forces, que comme par exemple ils ont expliqué avant, ça passe par les écoles, les profs des collèges et des lycées à côté du Neruda, on voit les élèves aller de voir au Neruda et l'inverse. Du coup j'aimerais bien poser la question de comment, c'est quoi les acteurs dans le quartier avec qui les Neruda interagit, comment ça se construit les rapports dans les quartiers et à travers quel type de journée, quel type de lutte.
Ciao a tutte e tutti, sono Greta. Allora, un po' come dicevano prima anche Viola e Filippo, i rapporti con il quartiere sono costruiti attraverso diversi momenti.
Donc, come diceva Viola e Filippo avant, le rapport avec le quartier, il s'est construit autour de différents moments. D'une part, l'organisation de la manif du 25 avril, mais aussi autour de, enfin, justement des activités sportives, de la salle de sport autogérée, qui est vraiment un pont entre le monde aussi plus militant et les gens du quartier.
Appunto, in realtà, inizialmente, il Neruda è stato, cioè, fin da subito, uno spazio molto aperto al quartiere, infatti.
Donc le Neruda, ça a été un espace qui a été dès le départ très ouvert vers le quartier. Et en effet, dès les premiers mois de l'occupation, il y a par exemple eu des moments où les artisans du quartier posaient des tables et organisaient un espèce de petit marché juste devant le Neruda pour vendre leurs fabricants, enfin les trucs qu'ils fabriquent.
Et puis, appunto, oltre questa parte un po' più storica, diciamo, ad oggi ci sono dei momenti, delle ricorrenze quasi ogni anno che.
Et donc, ça c'était une partie plus historique, mais donc aujourd'hui, effectivement, ce lien avec le quartier, il s'organise aussi autour d'événements organisé de façon presque annuelle, donc entre autres un carnaval social, un carnaval de quartier qui est organisé donc avec le quartier, et surtout pensé pour pour les enfants, donc avec l'idée de pouvoir aborder des thématiques politiques, mais de façon plus accessible, avec pas une manifestation, une parade en ville, enfin dans le quartier.
È appunto un altro evento che organizziamo nel quartiere, nelle strade del nostro quartiere, la festa d'estate, che tra l'altro è...
Un altro evento, donc c'est la fête d'été, qui est organisée donc sur le dernier weekend de juin cette année, si vous voulez venir, et qui donc là pour le coup s'organise vraiment dans les rues autour du Neruda, avec la fête, de la musique, des repas partagés, donc avec l'idée vraiment qu'il y ait la plus grande participation possible en le faisant en extérieur.
Ok, sì, appunto anche il 25 aprile, come dicevamo, come hanno detto sia Lorenzo che Filippo, è una giornata molto molto importante. L'unico appunto ulteriore che faccio è che appunto...
Un autre moment, comme ça, on avait déjà parlé, c'est le 25 avril, et entre autres, avec en plus de ce qui a déjà été mentionné, l'organisation avec les activités périscolaires et... Dopo scuola et qui... Et le Neruda en général, donc des activités dans les écoles, enfin des espèces d'ateliers pour parler du 25 avril, ce qui est important en soi, mais aussi pour, c'est un signe important de la reconnaissance informelle qu'a le Neruda au sein du quartier où il existe.
Cioè, anche il modo di rapportarsi al quartiere è creando comunità e riconoscimento che dà la cosa molto interessante. Et belle, hein, que politiquement, que se passe à Neruda.
Donc, c'est important de cette reconnaissance, c'est de montrer comment de ce lien avec le quartier, c'est comment le Neruda a réussi à faire communauté avec le quartier dans lequel il existe. Et ça s'est vu beaucoup cette dernière année autour du fait que, par exemple, les gens du quartier ont confiance dans le modèle du Neruda, dans le Neruda en lui-même, par exemple, à travers toutes ces attaques politiques les dernières années sur la question de la tuberculose, de l'épidémie, les gens du quartier sont venus demander des comptes au Neruda même, en leur posant la question, en demandant des explications, et que même à travers ces difficultés, de fait, les liens avec le quartier se sont presque trouvés renforcés du fait de cette confiance qui existait déjà.
Et quella fiducia deriva dal fatto che le lotte che si portano avanti al Neruda funzionano, cioè quello che noi ci diciamo in assemblea è quello di creare anche un'alternativa, no? Tutti i discorsi che ci facciamo sul...
Un autre signe de cette confiance, c'est le fait que les luttes qui sont menées à l'intérieur du Neruda fonctionnent, sur ce qu'il disait déjà avant, sur la manière dont les activités, les choses qui sont organisées dans le Neruda se veulent proposer et créer une alternative à l'État, avec beaucoup de discussions autour... avec le fait qu'ils problématisent justement leur rôle de militant et de ne pas tomber dans une espèce de démarche assistentielle, mais bien de proposer une alternative politique. Et un seul exemple, c'est quand au moment de la tuberculose, il y a des enseignants des écoles qui sont venus voir le Neruda pour leur demander pourquoi ils n'avaient pas communiqué le fait qu'il y aurait potentiellement des personnes malades qui après iraient dans les écoles. Et donc ça montre comment, de certaine manière, c'est le Neruda qui... représente cette alternative là où l'État n'est pas intervenu du tout.
Où l'État n'a pas fait la communication sanitaire nécessaire, c'est le Neruda qui a dû la prendre en charge.
Un aspect important, sicuramente, qui a à faire avec la composition de l'habitativo.
Un autre aspect très important des différentes luttes qui ont été menées par le Neruda sur ces dernières années, donc cet aspect important, c'est la question vraiment de l'antiracisme qui est centrale.
Appunto ci sono state negli anni tante iniziative e tanti percorsi che sono nati, sono cresciuti.
E donc il y a eu plein d'initiatives au Neruda sur ces questions-là, d'abord en interne dans les assemblées, que ce soit l'assemblée des habitants ou l'assemblée des femmes, ces questions ont été discutées, la question de la violence raciste, mais aussi du coup les questions anti-impérialistes, et à travers aussi l'étude de la lecture des textes de figures noires de la résistance aux États-Unis et en Afrique.
Sicuramente un momento di svolta c'è stato nel 2020 in seguito all'assassinio di George Floyd e allo scoppio del movimento Black Lives Matter.
Donc, un moment important de la mobilisation sur ces questions-là, ça a été 2020, après l'assassinat de George Floyd, donc lancé du mouvement Black Lives Matter, où il y a eu plein de manifestations qui ont été organisées à Turin, donc au Neruda, mais pas seulement, avec aussi beaucoup de jeunes de seconde génération qui sont qui ont fait des manifestations pour exprimer la violence qu'ils subissaient. Et donc ça, c'est ce qui a et donc il y a au sein du Neruda aussi des liens qui ont pu être tissés avec d'autres collectifs citoyens et de lutte sur ces questions-là. Et ça aurait été très chouette que les personnes directement impliquées peut-être aient pu venir ici pour vous en parler, mais beaucoup d'entre elles aussi pour des questions de papier ne peuvent pas voyager aussi librement que d'autres et donc elles ne sont pas là.
Et un autre tema molto importante è quello dei CPR, CRA, appunto i centri di permanenza per il rimpatrio, dove le persone senza documenti vengono rinchiuse.
Un altro punto importante della lotta antiraciste è la questione dei CPR, l'equivalente italiano dei CRA. C'est une question qui est complexe pour le Neruda parce que c'est aussi beaucoup d'habitants du lieu sont directement menacés, pourraient directement être enfermés dans ces centres. Et donc il y a deux cas dont elle voudrait parler. Un qui a eu lieu en 2020 où un camarade du Neruda a été enfermé au CPR de Turin. Et de là, il a même été transféré à celui de Rome parce qu'il y avait les craintes qu'il puisse encore avoir des contacts avec l'extérieur en restant dans celui de Turin.
Et puis, un autre cas très important, même si c'est alquanto tragico, est quello di Moussa Balde, qui est un ragazzo della Guinea, qui viveva à Ventimiglia.
Donc, un autre cas très important, c'est celui de Moussa Balde, qui était un jeune qui vivait à Ventimiglia, qui a subi une agression raciste. Et puis, à la suite de cette agression, il a été retrouvé sans papier et il a été enfermé au CPR de Turin et mis à l'isolement où il n'a reçu aucun soin pour les blessures qu'il avait. Et il a fini par se suicider. Et de là est suivi un procès contre la directrice du CPR, mais aussi le médecin qui était censé le suivre pour homicide volontaire.
In seguito a questi casi e tanti altri, in realtà il caso di Moussa nel 2021.
Le cas dont on vient de parler, ça c'était en 2021 et en 2023, le CPR de Turin, il a été fermé parce qu'il y a eu de très nombreuses révoltes et des sections entières du centre qui ont été brûlées par les personnes enfermées. Et c'était certainement une grande victoire, bien qu'en fait il ait été réouvert l'année suivante.
Et appunto, à la luce di questi fatti, insomma, il clima che c'è a Torino in Italia in generale rispetto ai CPR.
Et donc, face à ce climat général, et puis l'histoire de Moussa en particulier, le Neruda, comme plein d'autres collectifs, s'est organisé, et entre autres, il y a un collectif qui s'est mobilisé pour, entre autres, permettre à la famille de Moussa de venir en Italie pour pouvoir suivre le procès en cours contre la directrice du CRA.
Une autre parenthèse, riguardo alla lotta antirazzista. Appunto la parenthèse plus récente qui a à faire avec le référendum.
Une autre parenthèse, c'est celle du fait que l'année dernière, c'est ça, l'anno scorso, il y a eu un référendum en Italie sur la question de la nationalité et de l'accès à la nationalité italienne, avec le vote concernait le fait de réduire de 10 à 5 ans le temps que des personnes devaient attendre pour pouvoir demander la nationalité italienne. Donc il y a des grosses discussions au sein du Neruda sur comment se positionner vis-à-vis de ça, dans le sens que même en prenant en compte toutes les limites du système de la justice bourgeoise, comment faire quand on doit répondre à des exigences matérielles immédiates et comment réfléchir à construire donc des réseaux de soutien et de solidarité avec tout le monde.
Quindi sì, in realtà questo appunto come abbiamo insomma cercato anche di dire tutte insieme.
Donc comme elles ont toutes essayé de dire, quand même une des volontés principales du Neruda, c'est de proposer des réponse concrète, enfin des moyens concrets de résistance vis-à-vis de ce système général contre lequel on lutte.
Moi, je voulais juste ajouter par rapport à ce qu'ils viennent de dire de avoir toujours un espace de discussion politique qui problématise les choses et avoir quand même dans la tête qu'il y a des exigences matérielles qu'il faut atteindre avec des résultats du coup concrets et rejoindre aussi le discours sur l'ouverture au quartier. Je pense qu'un autre une autre pratique, un autre moment très important au sein de Neruda pour s'ouvrir au quartier dont on a un peu parlé au début, c'est le travail politique de Prendo Casa. Prendo Casa, c'est un collectif qui lutte contre les expulsions, qui était à la base de l'occupation du Neruda, qui jusqu'à l'année dernière s'était quand même bien aligné avec le Neruda, et récemment en train un peu de se séparer, mais quand même les gens s'est hyper soudé entre eux. Et l'idée, c'est du coup d'avoir une activité politique dans le quartier. Une fois qu'on a lutté pour obtenir une maison pour 120 personnes, de ne pas s'arrêter là, mais on voulait continuer à lutter pour que les autres ne la perdaient pas. Du coup, à partir de 2011, le collectif Prendo Casa a commencé à organiser des piquets anti-expulsion, qui concrètement, c'est ça. On s'est donné rendez-vous les matins tôt devant la porte où il y a une expulsion pour empêcher l'expulsion. Il faut dire qu'en Italie, à la différence de la France, nous, on connaît la date de l'expulsion. Même s'il y a un code dans le code pénal qui permet de faire une expulsion à surprise, qui est de plus en plus utilisé, mais qui en vrai, la plupart des cas, n'est pas mis en place. Et du coup, l'ouverture au quartier et le fait de gagner sur des petits tout concrets, ça se passe même pour l'organisation des piquets anti-expulsion, qui sont participés par des militants des autres collectifs, mais même par des habitants du Neruda. S'il y a des habitants du Neruda qui sont passés par là, qui avant il y avait une expulsion, on a lutté pour empêcher l'expulsion. Dans plusieurs cas on gagne, dans des cas on perd, du coup il y en a certains qui sont venus habiter au Neruda. Et je pense que ça fait même partie de la capacité de construire des rapports de confiance dans le quartier dont notre camarade parlait avant. Les gens font confiance du fait qu'on a des petites victoires concrètes, matérielles, qui touchent les conditions matérielles des gens. Et du coup, il faut toujours avoir ces deux niveaux, un niveau de discussion politique et problématique, un niveau de victoire concrète matérielle. Que ça se passe, c'est on se met devant la porte. 9h, 10h du mat, les flics arrivent avec l'officier judiciaire, Lucien. Et la plupart des cas, ils ne se sont pas de faire l'expulsion. À la fois parce que dans certains cas, ils n'ont pas assez de flics. Parce qu'au niveau légal, ils doivent avoir un certain nombre de flics par personne. Du coup, s'ils ne sont pas préparés, ils ne peuvent pas les faire. Dans certains d'autres cas, parce qu'il y a quand même un gros réseau derrière les Neruda, il y a des piquets où on est nombreux, du coup, même au niveau médiatique, c'est pas facile d'expulser les Neruda, c'est pas comme expulser Ascatasuna, le public est différent, les gens sont différents. On voulait ajouter même cette partie de Prendo Casa, qui aujourd'hui est justement un petit peu en train de se séparer du Neruda, mais qui c'est fortement lié à l'histoire du Neruda. Ça dépend de période, mais il y a quand même 3-4 piquets par mois. Une fois par semaine, du coup, il y a un âgé des familles qui ont des problèmes avec les logements. Et l'idée, c'est un peu de faire face collectivement à des situations individuelles. Et l'idée, c'est du coup de gagner du temps à travers les résistants contre les piquets, les résistants des piquets contre les expulsions, aller faire pression sur les services sociaux. Il y a plusieurs occupations des services sociaux, aller faire pression sur l'institution qui gère l'hébergement d'urgence. Où les temps qu'on gagne dans le renvoi d'une expulsion à l'autre, on va faire pression sur les différentes institutions. Et un peu les slogans qu'on a là, c'est de passer de maison à maison. C'est-à-dire qu'avant d'être expulsé, il faut avoir les clés de notre maison. Je voulais savoir c'est quoi aujourd'hui les perspectives du Neruda, les raisonnements qui aujourd'hui ont lieu par rapport au futur et surtout après une année très compliquée avec les procès Sobrano, la tuberculose et l'expulsion des Ascatasuna. C'est quoi un peu les perspectives dans l'Assemblée du Neruda?
Ma è sicuramente una domanda un po' complicata.
C'est une question un peu dure à répondre. Évidemment, on a essayé de vous expliquer un peu le contexte et notamment ce qui s'est passé avec l'expulsion d'Ascatasuna a mis un coup d'accélérateur à toutes les réflexions qu'on était déjà en train de faire sur l'avenir politique de notre espace.
Quindi sicuramente è una, cioè, sull'occupazione come strumento è una riflessione che sta ancora portando avanti, quindi non è che abbiamo un punto.
Un dei punti principali de nos discussions, c'est la question de l'occupation en tant qu'outil de lutte politique. Donc il faut comprendre avant tout quelle est quelle est l'occupation dont on parle. Donc dans le Neruda, il y a beaucoup de personnes qui ont besoin d'avoir une résidence, donc d'avoir une adresse. Parce qu'en Italie, sans une adresse de résidence principale, tu n'as accès à aucun droit. Ce qui est un peu différent en France, il me semble. Et donc, ce qui nous mène, par exemple, à nous dire que l'occupation dure et pure, en termes de « il faut absolument qu'on squatte », illégalement, entre guillemets, peut-être ce n'est pas le seul instrument qu'on peut utiliser dans la lutte politique.
Cioè, ci siamo comunque, abbiamo incominciato a ragionare sulle possibili strade che potevamo prendere.
Alors donc pour préciser le contexte, la question qu'on se pose, c'est que vu la quantité de menaces qu'on est déjà en train de subir, si on reste, si on ne bouge pas, le résultat final de l'expérience Neruda, c'est l'expulsion. Et ce n'est pas ce qu'on veut. Donc il faut réfléchir à d'autres options possibles. Et donc une des choses qu'on a commencé à mettre en place, c'est d'essayer de construire une tutelle de notre espace et d'accepter de négocier avec les institutions, donc d'ouvrir ce qui s'appelle une table de négociation en Italie, qui est une forme de discussion politique, dans laquelle on fait rentrer aussi des associations reconnues par l'État, qui ne représente pas exactement ce que nous on représente en termes de lutte politique, mais qui on peut définir comme des associations camarades et qui vont peut-être nous permettre de protéger l'espace.
Je pense que c'est quand même un débat compliqué, qui est assez récent pour le Neruda, qui s'est touché avant à Skatasuna. C'est une discussion qui porte plus que sur un plan théorique sur lesquels on est un peu tous d'accord, sinon on n'aurait pas résisté 10 ans sans accepter des conventions. On aurait demandé des conventions plus tôt. Si ça fait 10 ans qu'on n'a aucune convention, aucun accord avec l'État, c'est parce qu'on ne croyait pas dans ça. C'est un moment historique particulier en Italie et je pense qu'on est un peu tous et toutes d'accord. L'expulsion d'Ascatasuna à Turin, c'était quand même très impactant parce que expulser Ascatasuna, ça veut dire que tu peux expulser tous les autres. Du coup, on s'est retrouvé à devoir réfléchir à des choses stratégiquement, même si, il faut même dire qu'en vrai, c'est même des discussions récentes internes qui du coup n'ont pas ou encore une synthèse collective. Mais voilà, il y a des conditions matérielles et historiques et des contextes historiques, sociaux qui t'obligent à réfléchir à...
Pour vous dire que ce qui vous attend, c'est ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils n'ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, vous écoutez les Régors chaque semaine sur les Coligarigues à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et bien évidemment Radio Primitive sur 1 sur cette émission réalisée. Vous pouvez retrouver nos émissions sur le blog Le Chat Noir 51 et sur le site oclibertaire.l'autre.net.
J'ai un truc